pensée nous soit donnée et que cette parole nous façonne. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Fais ce que tu veux avec nous, Père. Amen. Alors, nous allons aujourd'hui faire une lecture dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 19. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Ainsi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. En ce début d'année 2024, nous allons nous attarder sur un ennemi de la vie chrétienne. Alors vous verrez qu'en 2024, nous allons venir sur plusieurs ennemis de la vie chrétienne, plusieurs ennemis de notre marche avec le Seigneur. Et ce matin, nous allons nous attaquer à un premier ennemi que la Bible appelle l'incrédulité. L'incrédulité. S'il y a une chose que nous devons bannir de nos vies en 2024, c'est l'incrédulité. S'il y a une chose que nous pouvons nous donner comme objectif de chasser de nos vies en 2024, c'est l'incrédulité. Et le texte que nous avons lu a un contexte particulier qui a rapport avec le salut, mais ce texte nous fait référence à plusieurs passages de l'Ancien Testament et nous apprend une vérité importante qui va nous occuper ce matin, c'est que l'incrédulité nous empêche d'entrer dans le repos de Dieu. L'incrédulité, le manque de foi, nous empêche d'entrer dans le repos de Dieu. Et c'est ce qui est écrit au verset 19 du chapitre 3 que nous avons lu, le dernier verset que nous avons lu. Ainsi, voyons-nous qu'ils ne purent entrer à cause de leur incrédulité. En réalité, quand on dit entrer dans le repos de Dieu, ça signifie entrer pleinement dans le plan de Dieu. Ça signifie entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu. Ça signifie obtenir l'accomplissement des promesses. Comme vous le savez, le repos de Dieu pour le peuple d'Israël, c'était d'être en Canaan. C'était ce que Dieu avait promis, c'était d'entrer en Canaan. Et le texte dit, ils ne purent entrer en Canaan, ils ne purent entrer dans le repos de Dieu à cause de leur incrédulité. Donc, entrer dans le repos de Dieu, c'est entrer dans ce que Dieu a prévu d'avance. Entrer et recevoir ce que Dieu a promis. Être dans le repos de Dieu, c'est être au moment où l'on peut toucher du doigt ce que Dieu avait prévu. Eh bien, le texte nous apprend que lorsque nous sommes incrédules, nous nous bloquons la porte, nous nous bloquons la possibilité de vivre et de toucher ce que Dieu a prévu, raison pour laquelle nous devons chasser l'incrédulité de nos vies et chasser l'incrédulité de l'Église. Et donc le texte d'Hébreux 3 que nous avons lu fait référence à plusieurs épisodes que vous connaissez bien, des épisodes où le peuple de Dieu s'est révolté contre Dieu et contre Moïse parce qu'ils n'avaient pas la foi en ce que Dieu avait promis. Il leur manquait la foi et donc ils se sont révoltés contre Dieu et contre Moïse. Alors, premier épisode, vous le connaissez, on a déjà beaucoup parlé dans Exode 17, à Réphidim. C'est le fameux moment où le peuple s'assied, le peuple fait son campement et ils se retrouvent là, ils n'ont pas d'eau à boire. Et donc, ils s'énervent et ils commencent à murmurer contre Moïse. Et ils disent à Moïse, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux ici ?» Et ils s'énervent et c'est à cette occasion-là qu'ils vont dire la fameuse phrase, souvenez-vous, la fameuse phrase, ils vont poser une question. Ils vont dire, « L'Éternel est-il au milieu de nous ou pas ?» C'est à ce moment-là qu'il va y avoir la fameuse guerre avec Amalek. Voilà un premier épisode auquel fait référence ce texte d'Hébreux chapitre 3, un épisode où ils ont laissé le doute entrer dans leur cœur. Ils ont laissé le manque de foi entrer dans leur cœur. Et ça a ouvert la porte à cette guerre avec Amalek. Le deuxième épisode qu'on peut mettre en lien avec ça, il y en a plein, hein, des épisodes où ils ont manqué de foi, où ils ont été incrédules, c'est l'épisode de Nombre 13 et 14 que nous avons évoqué à la réunion de prière il y a quelques semaines pour ceux qui étaient là. C'est ce passage où 12 explorateurs sont envoyés en terre d'Israël pour faire une exploration pendant 40 jours. Et ils reviennent de cette exploration, ils ont vu ce que Dieu leur a dit d'aller, enfin ce que les chefs du peuple les ont envoyés voir, et ils reviennent en disant, mais vous avez raison, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais c'est un peuple puissant, les villes sont fortifiées, sont très grandes, il y a des géants, et le texte dit qu'ils ont décrié la terre d'Israël. Ils ont clairement dit, c'est un pays énorme, c'est un pays qui dévore ses habitants, nous avons vu des géants dans cet endroit-là, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux, et ils vont en fait décrier complètement la terre d'Israël, ils vont en parler en des termes tellement mauvais que le peuple d'Israël va se décourager, ils vont se mettre à crier, à pleurer, et ils vont même dire, si c'est comme ça, on ferait mieux de nommer un chef et de retourner en Égypte. Et Dieu va être irrité de leur incrédulité. Dieu va se fâcher à cause de leur incrédulité. Dieu va leur faire grâce, il va les pardonner, dit le texte, mais ils auront comme jugement qu'ils n'entreraient pas dans le repos de Dieu, ils n'entreraient pas dans la terre promise. Ils ont été pardonnés, mais ils ont eu cette sanction que toute cette génération est morte dans le désert et toute cette génération n'a pas vu la terre promise parce qu'ils ont manqué de foi, parce qu'ils ont été incrédules. Et assurément, on peut penser que nous aussi, nous avons un repos de Dieu dans lequel nous sommes censés entrer. Nous aussi. Nous aussi, nous sommes des gens qui pensons que Dieu a prévu quelque chose. En 2024, en 2025, en 2026, que Dieu a prévu quelque chose pour notre vie, pour notre Église, pour le royaume de Dieu, pour la Belgique, pour le monde. Nous pensons que Dieu a prévu quelque chose. Nous pensons que Dieu a en réserve quelque chose, que Dieu prévoit le futur, que Dieu organise le futur. Et nous croyons que Dieu veut réaliser des choses. Eh bien, nous devons savoir et nous arrêter ce matin sur le fait que l'incrédulité nous empêche et nous prive des choses que Dieu a prévues d'avance pour nous. Dieu a prévu de réaliser des choses en nous, pour commencer, dans nos personnes, dans nos êtres. Dieu a prévu de réaliser quelque chose dans nos âmes. Dieu a prévu de nous consoler. Dieu a prévu de nous restaurer, Il a prévu de nous faire grandir dans la foi. Dieu a prévu de nous guérir. Parfois du poids de notre passé qui nous tient, qui nous empêche d'avancer, qui nous attriste. Dieu a prévu de se révéler à nous et de nous révéler des choses que nous ne savions pas, de nous faire comprendre des choses que nous ne comprenions pas. Dieu a prévu aussi des choses dans nos vies, pas seulement à l'intérieur de nous, mais dans nos vies, dans nos existences, n'est-ce pas ? Dieu a prévu d'intervenir dans nos circonstances de vie, de changer nos circonstances au niveau de notre travail, parfois, au niveau de notre couple, au niveau de notre famille, au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de notre bien-être. Dieu a prévu d'intervenir. Dieu a prévu d'intervenir dans nos relations pour nous mettre en contact avec des personnes, pour nous faire grandir dans nos relations. Assurément, nous le croyons, que Dieu a prévu d'intervenir dans notre Église, d'agir dans notre Église, que Dieu a prévu de sauver des perdus au travers de notre Église, de sauver des personnes qui ne connaissent pas Christ au travers de nous. Dieu a prévu que des familles, peut-être dans cette rue de Baillemont ou peut-être sur la place ou sur l'autre rue là-bas, que des familles qui sont dans les ténèbres de l'obscurité découvrent la lumière de Jésus au travers du témoignage de quelqu'un de cette Église. Dieu a prévu ça. Dieu a prévu que dans cette Église, des nouvelles personnes se lèvent, que des nouveaux dons s'expriment, que de nouveaux engagements soient mis en évidence, que des nouveaux serviteurs de Dieu naissent dans l'Assemblée, que des nouvelles personnes se mettent à suivre Christ. Dieu a prévu ça pour notre Église. Dieu a prévu aussi des choses pour la région, pour la Belgique. Dieu a prévu que dans ce pays, des hommes et des femmes encore se tournent vers Jésus et soient sauvés. Il a prévu de faire naître des nouvelles églises, il a prévu que des nouveaux enfants de Dieu vont se lever, que des jeunes chrétiens vont être des jeunes qui vont faire la différence, qui vont marcher avec Christ. Et tout croyant que vous êtes, que nous sommes, tout croyant devrait avoir à cœur de voir les choses que Dieu a prévues se matérialiser. Tout croyant devrait avoir à cœur avoir un cœur bouillant et désireux de voir ce que Dieu va faire. On devrait être tous comme dans une série Netflix, en train de se dire, c'est quoi le prochain épisode? Qu'est-ce que Dieu va faire maintenant? On devrait être tous certains que Dieu va agir et de se dire, mais ça va être quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, mon bon, grand Dieu puissant? Nous devons tous être des gens qui croient que Dieu intervient, que Dieu agit. Nous ne sommes pas appelés à être des gens blasés qui ne croient plus en rien. Nous ne sommes pas appelés à être des gens qui doutent constamment de ce qui va venir ou des gens qui restent attachés uniquement à ce qu'ils voient, à la réalité, et qui se laissent décourager par la réalité. Nous ne sommes pas appelés à être des gens qui ne voient que le bout de leur nez. Vous les connaissez, ces chrétiens qui connaissent que le bout de leur nez? La terre, l'univers s'arrête au bout de leur nez, à ce que je vois, à ce que je comprends, à ce que je sais, à ce que je touche. Nous ne sommes pas non plus appelés à être des gens qui n'attendent rien. Ça pourrait paraître beau, ça, hein, de dire « Ah, mais moi, vous savez, je suis un chrétien heureux, je n'attends rien de Dieu. » Je n'attends pas que Dieu agisse, je n'attends pas, je suis heureux. Mais en réalité, ne rien attendre, c'est insulter Dieu, parce que c'est chanter à un Dieu tout-puissant qui ne saurait rien faire. Je chante qu'il est tout-puissant, mais je ne crois pas qu'il peut faire quelque chose. Nous ne sommes pas appelés à être de ces gens qui n'attendent rien, qui ne croient rien, qui ne veulent rien. Nous sommes appelés à être des personnes de foi, des personnes qui croient, des personnes remplies de foi en Dieu. Et bien sûr, si nous ne sommes pas des gens qui sont remplis de foi, nous devons alors nous mettre en accord, nous devons réfléchir à quoi changer. Soit nous arrêtons de chanter que Dieu est puissant, c'est possible, on peut le faire. On peut se dire, ben, je ne chante plus ça parce que je ne pense pas que c'est tout à fait vrai. Mais si nous le chantons de tout notre cœur, si nous le croyons quand nous le chantons, si nous le croyons comme nous le lisons dans la Bible, alors nous devons être des hommes et des femmes de foi. Et justement, l'incrédulité, c'est le contraire de tout cela. Alors ici, dans ce texte, dans ce contexte, ce n'est pas l'incrédulité au sens ne pas croire en Christ. Hein, donc ça, c'est comme la Bible appelle les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas en Christ. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de l'incrédulité du croyant, l'incrédulité du chrétien, l'incrédulité de l'enfant de Dieu. C'est lorsque quelqu'un, un enfant de Dieu, ne parvient pas, n'arrive pas, n'est pas en mesure de faire confiance à Dieu. C'est lorsqu'un enfant de Dieu ne parvient pas à croire les paroles de Dieu, ne parvient pas à mettre sa confiance dans ce que Dieu dit, ne parvient pas à croire aux déclarations de Dieu, à croire aux promesses de Dieu. Ça nous concerne, ça ne concerne pas les incroyants, c'est nous en tant que croyants. L'incrédulité nous empêche de saisir ce que Dieu a prévu. L'incrédulité, par exemple, nous empêche de croire que Dieu peut faire des miracles. Quand on a été annoncé à Abraham qu'il allait avoir un enfant alors qu'il avait 100 ans, il a ri. Il s'est dit, mais comment est-ce que moi, un vieillard, je vais avoir un enfant à mon âge ? Quand on a été annoncé à Zacharie qu'il allait avoir un enfant, Jean, il s'est demandé quoi ? C'est d'ailleurs pour ça qu'il est devenu muet. Dieu lui a dit, comme tu n'as pas cru, tu seras muet. L'incrédulité nous empêche de croire que Dieu peut faire des miracles. L'incrédulité nous empêche de croire que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous imaginons. Nous ne croyons pas que Dieu peut nous faire sortir d'une situation inextricable. Nous ne croyons pas que Dieu peut bouleverser l'ordre naturel des choses. Nous ne croyons pas que Dieu peut toucher tel cœur et amener telle personne à la conversion. Oh non, tous, mais celui-là... Nous ne croyons pas parfois que Dieu peut guérir notre vie, peut guérir notre mariage, peut guérir notre famille. Nous ne croyons pas que Dieu peut exaucer une prière que nous lui faisons depuis si longtemps. Et lorsque nous ne croyons pas, la Bible nous appelle des incrédules. Alors très souvent dans notre vie, c'est pas que nous ne croyons pas du tout. Parce que quand même, on est tous des enfants de Dieu, donc on n'est pas... Mais souvent ce qui se passe, c'est que nous doutons. Et donc, nous croyons aujourd'hui, nous croyons moins demain, nous avons une idée, et puis nous changeons d'idée, tout ça. L'incrédulité nous empêche même de réaliser certaines œuvres de Dieu. Vous connaissez ce fameux passage où Jésus, où les disciples essayent de chasser un démon, et où les disciples n'y arrivent pas, et les disciples lui disent, mais Seigneur Jésus, pourquoi ? Est-ce que nous n'arrivons pas à chasser ce démon ? Et Jésus leur répond, c'est à cause de votre incrédulité. Et il leur dit, si vous avez la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Si vous aviez la foi comme un grain de sénevé. La parole de Dieu nous enseigne aussi que l'incrédulité empêche Dieu d'agir. Vous l'avez déjà entendu, on l'a déjà dit 100 000 fois. On peut l'afficher. Matthieu 13, 57 à 58. Il est écrit « Et il était pour eux une occasion de chute. » Donc c'est les personnes qui ne croyaient pas au ministère de Jésus. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Jésus n'a pas pu faire de miracles dans un lieu à cause de l'incrédulité des gens, parce que les gens n'y croyaient pas. L'incrédulité nous conduit aussi à négliger les paroles de l'Écriture. Parce qu'en fait, l'incrédulité, c'est ne pas placer sa confiance dans ce que Dieu dit. Alors ça peut être ne pas placer sa confiance dans les promesses de Dieu, mais ça peut être aussi ne pas placer sa confiance dans les enseignements de Dieu. Et donc, quand on est incrédule, ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas au sérieux la parole de Dieu. On ne prend pas au sérieux la promesse de Dieu ou on ne prend pas au sérieux ce que Dieu dit, tout simplement. Nous ne croyons pas réellement ce que nous lisons, nous ne croyons pas ce qui nous est annoncé et nous ne croyons pas les gens qui nous parlent de la part de Dieu. Nous ne croyons pas les promesses de Dieu. Lorsqu'il est dit, même si tu traverses par le feu, je serai avec toi et tout ça. Oui. Oui, ben, ça nous passe au-dessus de la tête. Parce que nous ne sommes pas convaincus. Et si vous voyez ça comme ça, vous vous rendez compte que l'incrédulité nous concerne tous. Parce que tous, souvent, nous sommes des gens qui méprisons certaines pensées de l'Écriture en se disant, bah, hein, on n'y place pas notre confiance dans ce que Dieu dit. On n'y croit pas vraiment. Hein, si on avait fait hier la galette des rois de l'incrédulité, et moi j'aurais été le roi de l'incrédulité. Et peut-être que d'autres aussi auraient été rois, auraient eu la couronne de l'incrédulité. Parce que parfois, nous ne croyons pas ce que la Bible dit. Nous ne croyons pas réellement ce que Dieu dit. Et c'est nos comportements qui le montrent, que nous n'y croyons pas vraiment. Nous disons que nous y croyons, mais nous n'y croyons pas vraiment. Parfois, nous méprisons les avertissements de Dieu. Il y a des paroles de l'Écriture qui sont littéralement méprisées par les croyants, comme si elles n'existaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont méchants? Non, parce que nous n'y croyons pas. Lorsque la Bible dit quelque chose et que nous n'y sommes pas attachés, c'est que quelque part, nous n'y croyons pas. Quand la Bible nous dit, par exemple, de ne pas nous mettre sous un joug avec les incroyants, on se dit, oui, mais bon, ok, on va pas en faire toute une histoire. Parce qu'on ne pense pas que c'est si important, on ne donne pas d'importance à ce que Jésus dit. Lorsque la Bible nous parle des derniers jours, parfois, oui, bon, il reviendra comme un voleur et tout le verra et tout ça. Bon, ça semble parfois tellement. Notre attitude montre que nous ne croyons pas toujours pleinement ce que Dieu nous dit. Nous ne prenons pas au sérieux ce que la Bible nous dit sur les temps de la fin. Nous ne prenons pas au sérieux ce que Dieu nous dit sur le monde spirituel, sur la communion fraternelle, sur l'importance de la louange. Toutes des réalités que nous ne prenons pas au sérieux. Et en cela, nous manifestons de l'incrédulité. Parfois même, nous méprisons les avertissements de la parole. Et comme nous méprisons la parole, il nous arrive aussi de ne pas la mettre en pratique. Parce que quand on ne croit pas quelque chose, on ne le fait pas, évidemment. On ne le met pas en pratique. Il y a des paroles de l'Écriture que nous ne respectons pas parce que nous ne croyons pas qu'elles ont toute leur importance. Et donc, nous ne mettons pas en pratique. Par exemple, nous n'obéissons pas à certaines paroles. Alors, je prends les paroles gentilles, parce que si je prenais les méchantes, on aurait la guerre mondiale ici, donc je prends les gentilles. La Bible nous dit que nous devons honorer le roi et toutes les autorités. La Bible dit honorer le roi. Qui ici fait attention à honorer le roi? C'est la Bible qui le dit, hein? Il y a un roi en Belgique, vous êtes au courant? Ah oui, ah, vous êtes, ça va, c'est bien. Mais la Bible dit le roi, mais elle dit aussi toutes les autorités. Toutes les autorités. Il y a plein de textes, hein, dans la Bible. 1 Pierre 2, 17, Matthieu 2, 22, 21, Romains 13, 7, 1 Pierre 2, verset 13. Mais nous, est-ce que nous prenons au sérieux cette parole qui nous dit d'honorer toute autorité? Quand on dit, ah, Magnette, oh, Magnette, ça c'est un voleur, ça c'est un je ne sais né quoi, ça c'est un. C'est ton bourgmestre, hein, si tu habites à Charleroi. Oh, le roi Philippe, il ne fait rien du tout, il ne sait né quoi, il est. C'est ton roi, hein? C'est ton roi. C'est le roi de ton pays. Et la Bible nous dit que nous devons honorer le roi. Mais nous, on ne fait pas ça parce qu'on n'y croit pas. On ne croit pas que c'est important. Et donc, ce sont des mots de l'Écriture qui nous font rire. Et pourtant, pour Dieu, ça semble important. Et là, j'ai pris la plus gentille. Il y en a plein d'autres que je ne vais pas citer, sinon. Sinon, vous allez faire oh non, je ne viendrai plus jamais, de toute façon, qu'on le brûle. Bon, voilà. Mais parfois, il nous arrive de ne pas respecter ce que Dieu dit parce que nous ne pensons pas que c'est important. L'incrédulité réduit notre implication dans la prière. Lorsque nous sommes incrédules, nous ne prions pas parce que nous ne croyons pas que Dieu peut agir, évidemment. Alors, on ne va jamais dire qu'on ne croit pas que Dieu peut agir. Mais dans notre façon d'être et dans notre vie de prière, on sent bien qu'on ne croit pas. Alors que si nous croyons, à contrario, lorsque nous croyons, Ben, nous prions. Si nous croyons que Dieu nous écoute, si nous croyons que Dieu est là en train de nous entendre, ben, on va prier. Parce qu'on croit que Dieu agit. Vous connaissez Georges Muller, qui a beaucoup parlé de la prière. C'était un homme de foi, il a donné beaucoup d'enseignements sur la prière. Et il dit que, en 52 ans de vie chrétienne, il dit qu'il y a des milliers et des dizaines de milliers de prières que j'ai faites qui furent exaucées. Des milliers, des dizaines de milliers de ces prières qui furent exaucées. Alors pour ça, il faut déjà faire des dizaines de milliers de prières. Parce que si on fait déjà une prière tous les 3 mois, on n'arrive pas au compte. Mais quand on prie réellement, quand on prie, on voit l'exaucement de Dieu. Et voici ce que Georges Muller disait. Il disait, donc, c'est par milliers que mes prières ont été exaucées immédiatement. Souvent même avant de quitter ma chambre le matin, quelquefois 2 ou 3 ou 4 réponses alors que j'étais en train de m'habiller, et puis d'autres réponses encore dans le cours de la journée. Mais cela n'a pas toujours été ainsi. Il m'a fallu parfois attendre des jours, des semaines, des mois. Dans d'autres circonstances, ce ne furent que 4, 5, 8, 10, 12, 15 ou même 20 années et encore davantage avant que ne vienne la réponse. Parfois, ça a pris des années pour qu'il voie la réponse. Mais ce n'était pas un homme qui pensait que peut-être ses prières ne seraient pas exaucées. Il ne priait pas comme ça. Il croyait que Dieu pouvait exaucer ses prières. Et c'était un homme, du coup, qui priait. Et l'incrédulité a plein d'autres effets. L'incrédulité nous empêche de faire des projets pour Dieu. Parce qu'on va se dire, bah, à quoi ça sert? De toute façon, il ne va rien se passer. Dieu ne va rien faire. L'incrédulité nous amène à faire des compromis. Plein de choses que l'incrédulité empêche. Et l'incrédulité, c'est un obstacle qui empêche que nous puissions pleinement nous déployer dans notre foi. Et si nous, et quand on y pense, quand on croit, ça se voit. Imaginez-vous, pas vous parce que vous êtes des gens bien, mais imaginez-vous, hein, faites un effort mental, imaginez-vous que vous croyez que Dieu écoute la prière. Imaginez-vous. Donc vous ne le croyez pas, mais imaginez. Imaginez-vous en train de vraiment croire que Dieu écoute la prière. Donc imaginez-vous en train de croire que Dieu est là, maintenant, en train de vous écouter. Est-ce que vous pensez qu'on prierait si peu? Ben, on passerait des heures et des heures à prier. Si le Dieu de l'univers est là en train de t'écouter, tu vas pas prier un peu, tu vas prier beaucoup. Donc si nous prions peu, c'est parce que quelque part, l'incrédulité nous touche. L'incrédulité va nous faire dire « mais j'ai plus important à faire ». Donc nous sommes tous touchés par cette incrédulité. Et elle nous empêche, elle affaiblit notre foi et elle nous empêche d'avancer. On peut être rassurés, frères et sœurs, parce que Jésus a très souvent reproché aux disciples leur incrédulité. Donc ça va, on n'est pas non plus en dehors du lot. On a plein de textes où Jésus dit à Pierre, quand il le rejoint sur l'eau et que finalement il se met à sombrer, Jésus lui dit « mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Quand ils étaient sur la barque avec la tempête, « mais pourquoi avez-vous douté ?» Vous voyez, on n'est pas tout seul. D'autres doutent. Mais nous devons, malgré tout, nous attaquer à ce problème pour entrer dans cette année 2024 avec foi, où nous pourrons prier avec foi, où nous pourrons agir avec foi, où nous pourrons mettre en pratique la parole avec foi. La foi refuse le défaitisme. Le défaitisme, c'est ne même pas commencer à se battre parce qu'on se dit, de toute façon, c'est déjà perdu, les carottes sont cuites. La foi refuse le minimalisme. On dit, on va faire le minimum parce que ça ne sert à rien de vouloir plus, ça ne sert à rien de demander plus à Dieu. Comme disait quelqu'un un jour, nous demandons souvent à Dieu du papier toilette. Dans le sens où nous demandons des trucs à Dieu qui sont ridicules par rapport à ce qu'il peut faire. La foi refuse le négativisme, elle refuse de toujours tout voir en noir, de toujours tout refuser. La foi refuse ça, mais la foi nous propulse, elle nous amène à avancer. Et pour conclure, nous voyons qu'il y a un texte de l'Écriture qui peut nous aider. Si vous êtes déprimé, si vous dites « oh là là, je manque de foi, je suis incrédule », enfin voilà. Si vous aussi, vous avez droit à la couronne du roi de l'incrédulité, ce n'est pas grave, vous n'en faites pas. Il y a un texte de la Bible qui peut nous encourager. Et pour le contexte, c'est encore ce fameux texte où un démon est à l'intérieur d'un enfant, et ce démon a vraiment des effets très négatifs sur cet enfant, et notamment il le rend muet. Et le père de cet enfant supplie Jésus, il lui dit « Interviens, Jésus, pour mon enfant. » Et Jésus lui dit « Je peux intervenir, mais il faut que tu croies. » Il faut que tu croies. Et là, le père de cet enfant va répondre quelque chose d'extraordinaire. Et on peut l'afficher, c'est Marc 9, 24. Et il dit ceci, « Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » C'est extraordinaire quand même, parce que c'est contradictoire. Il dit qu'il croit et il demande à Dieu de venir au secours de son incrédulité. Mais c'est en fait très souvent comme ça que nous sommes. Quelque part, nous croyons, mais en même temps, nous sentons en nous une incrédulité. Nous croyons, mais nous sommes pris par le doute. Nous croyons, mais nous doutons. Nous croyons, mais nous ne savons pas. Nous croyons, mais il y a plein de choses qui nous perturbent, il y a plein de choses qui nous font douter, qui nous mettent en difficulté dans notre tête. Eh bien, nous pouvons dire, comme cet homme, ce matin, nous pouvons dire à Jésus, « Seigneur, je sais que tu es capable, mais en même temps, je sens que je suis incrédule. Viens au secours de mon incrédulité. Je sais que je crois, ce que la Bible dit, je chante et tout ça, mais viens au secours de mon incrédulité, aide-moi à croire. Viens au secours de ma foi pour que je puisse pleinement croire. » Et c'est ce que Dieu nous invite aussi à lui dire. Rappelez-vous, quand Thomas ne croyait pas, Jésus lui dit « Ne sois pas incrédule, mais crois. » C'est ce que Dieu nous dit, « Ne sois pas incrédule, mais crois. » Et nous pouvons nous adresser à lui et nous dire « Seigneur, aide-moi à croire. » Amen. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour ta parole et nous voulons, Seigneur, avant toute chose, confesser devant toi notre incrédulité. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes incrédules devant toi. Et chacun peut aussi le dire dans son cœur. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes incrédules devant toi. Nous sommes incrédules devant ce que tu peux faire, incrédules devant ta parole, incrédules devant ta puissance, incrédules dans tant de domaines, Seigneur. Et nous voulons te demander ce matin, nous voulons te supplier de nous secourir, de venir au secours de notre incrédulité, pour que nous puissions croire réellement, pour que nous puissions pleinement te faire confiance, pour que nous puissions, Seigneur, pleinement prendre au sérieux tes paroles, que nous puissions vraiment croire, Seigneur, vraiment croire, et que la foi nous amène à la prière, que la foi nous amène à la mise en pratique, que la foi nous amène à vivre ta volonté. Seigneur, augmente-nous la foi. Affermis en nous la foi. Aide-nous à croire. Et chacun aussi peut maintenant dans son cœur prier Dieu en disant, Seigneur, par rapport à telle situation, aide-moi à avoir la foi. Seigneur, aide-nous les uns et les autres à croire. Aide-nous dans notre Église à être une Église de foi. Et nous te supplions, Seigneur, en 2024, de chasser l'incrédulité de nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.